Bienvenue à toutes et à tous sur notre émission de Vous à nous, on vous dit presque tout. Accompagnée de Sylvie, Gertrude, Anne-Marie, Michel, Michel-E et MC, je vous plonge aujourd'hui au cœur d'un élément essentiel, l'eau. Transparente, silencieuse, parfois impétueuse, elle est partout autour de nous. Des enjeux essentiels se jouent autour de l'eau. L'accès, la préservation, la pollution et l'avenir des ressources. Pendant cette émission, nous allons explorer plusieurs aspects. Sylvie voguera sur la mer et nous annoncera sa bonne nouvelle. Gertrude et moi-même partirons dans un petit village près d'Évreux découvrir une pisciculture. Anne-Marie nous parlera des sources miraculeuses. MC évoquera les bienfaits des cures thermales. Michel fera la guerre de l'eau. Quant à Michel, le seul élément masculin de cette équipe, il nous réjouira d'un sketch et d'un billet d'humeur. Aujourd'hui, c'est notre Damien National qui nous accompagne à la technique dans le studio de Principe Actif 102.4 sur Évreux, 95.9 à Verneuil, Breteuil et Conches, et depuis peu en DAB+ pour une meilleure écoute. Alors, restez avec nous et laissez-vous porter par le fil de l'eau.
De vous à nous, on vous dit presque tout.
Ah bon ? Et qu'est-ce qu'on dit ?
Bah tout.
Ah bon ? Et quoi ?
Eh ben, vous n'avez qu'à écouter.
Et donc, c'est au tour de Sylvie de nous parler de la mer.
Et merci Florence, chers auditeurs. Je vous propose de faire un tour vers la Grande Bleue et ses bienfaits entre balade et baignade. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que l'eau de mer est une alliée solide pour renforcer son capital santé. Elle est reminéralisante, décongestionnante et antibactérienne. Elle agit sur le fonctionnement de notre métabolisme et aide ainsi notre corps à retrouver sa vitalité. Grâce à sa forte concentration en oligo-éléments, magnésium, calcium, phosphore, silicium, iode, potassium et bien d'autres encore, l'eau de mer améliore ainsi la qualité de notre peau grâce au zinc et au sel. Elle favorise son hydratation et accélère la cicatrisation. Que vous dire de plus ? Ah oui, elle décongestionne aussi nos voies respiratoires. Quelques brasses vous permettent de bénéficier de tous ces bienfaits. Les remous des vagues agissent comme des hydromassages naturels. Du coup, ça soulage les muscles, permet de booster la pénétration des actifs marins et d'apaiser les articulations. Pour la petite histoire, l'eau de mer suscite un intérêt chez l'homme depuis des siècles. Dès l'Antiquité, les Égyptiens furent les premiers à l'utiliser pour ses vertus thérapeutiques. Les Grecs et les Romains suivent le mouvement et soignent à l'eau de mer. Hippocrate, père de la médecine occidentale, invitait ses patients souffrant de problèmes articulaires, de lombalgie, à prendre des bains de mer. D'ailleurs, au XVIe siècle, des maisons de bains thérapeutiques émergent alors, ancêtres des centres de thalasso et de balnéo. Dès 1897, un biologiste français, René Quinton, bien connu, met en avant des similitudes entre la composition de l'eau et le plasma sanguin. Il conclut que l'eau de mer filtrée permettrait la régénération de nos cellules. Reprenons sur les autres bienfaits de la Grande Bleue. Elle rebooste la circulation sanguine. Et justement, je vais vous parler du launch coat. Vous connaissez ? C'est une marche en mer, le long des plages de sable. L'eau arrive jusqu'au diaphragme et on peut s'aider éventuellement d'une pagaie. C'est un vrai anti-stress naturel, en pleine nature. Le contact avec l'eau couplé à l'activité physique douce favorise un sommeil réparateur avec plus de bonheur et de lâcher prise. Clin d'œil marin. Ça me fait penser. On peut dire que le launch coat est bien connu et pratiqué par les chevaux dans le monde de l'équitation. Pour finir, imaginez, on se pose devant la mer, apaisante naturellement, on écoute les vagues, on regarde dans l'horizon, le bleu du ciel et celui de l'eau se rejoignent, et rapidement une sensation de calme s'installe. On respire l'air marin chargé d'ions négatifs, ces atomes qui activent la production de sérotonine, l'hormone du bonheur, et on pratique sans modération. suite, on écoute la première partie du reportage sur la pisciculture avec Gertrude et Florence.
Donc Bruno nous a quittés quelques instants parce que des clients se sont présentés. Donc ce sont des amateurs de pêche. Donc il leur distribue à chaque famille un seau, une canne et les clients vont aller pêcher eux-mêmes leurs truites et vont pouvoir les acheter après en fonction du poids qu'ils ont pêché. Bon, en premier lieu, déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter l'équipe qui travaille ici?
Alors, en fait, on a repris l'activité de cette pisciculture il y a un peu plus d'un an. On est 3 associés et chaque associé a un peu sa part précise de travail. Il y a donc Jean-Philippe qui s'occupe de toute l'administration, de la communication. Mehdi qui s'occupe de tout l'élevage de poissons et un peu du magasin. Et Bruno, qui donc moi-même, qui s'occupe de toute la transformation du poisson, c'est-à-dire de la fumaison, du tranchage, de l'emballage, tout ce qui est alimentaire, plus aussi le petit resto qu'on a au bord de l'étang, où on peut manger tous les midis du mercredi au dimanche.
Ah oui, donc vous avez repris aussi le restaurant qui est à côté.
Oui, en fait on a 2 étangs, non seulement donc on a l'activité à l'intérieur de la pisciculture, à l'intérieur de la pisciculture nous avons donc l'élevage de poissons, on fait de l'alvinage, c'est-à-dire qu'on fait éclore nos poissons chez nous et on les fait grossir chez nous, donc toute l'activité grossissement de poissons. On a l'activité pêche au kilo, donc où n'importe qui peut venir pêcher au kilo dans un petit étang à l'intérieur de la pisciculture des truites. On a l'activité transformation donc poisson, tout ce qui est fumaison, truite fumée à froid, à chaud, des pavés à chaud. On peut avoir aussi du poisson frais tué à la minute. Et on a l'activité pêche en étang, avec 2 étangs. Un étang, le grand, qui est loué à la demi-journée ou à la journée aux particuliers, et le petit étang qui est loué à la journée à des groupes familiaux ou CE, entreprises, etc.
Et là, c'est tout nouveau, c'est depuis que vous avez repris toutes ces activités.
Alors, tout existait déjà. En fait, le petit restaurant qui est ouvert avec l'étang, c'était vraiment un snack de base. On essaye de le développer au fur et à mesure du temps avec des choses plus sympas, du trout and chips, donc du fish and chips de truite, des wraps de truite fumée. On fait des planches découvertes, donc des planches avec tous nos produits fumés qu'on fait sur place. Voilà, donc ça, c'est nouveau. On a fait beaucoup de nettoyage, beaucoup de changements sur la pisciculture elle-même, de propreté, une nouvelle dalle béton. On a créé donc une boutique, donc la boutique est toute neuve, elle date du mois de mai l'année dernière, où on a la proposition de tous nos produits transformés ainsi que des produits du terroir fabriqués dans l'heure. Ça peut être le miel, ça peut être du café, ça peut être des rillettes de poulet, ça peut être du tout ce qui est cidre, enfin etc.
J'ai vu que vous aviez du vin, donc le vin vient pas de l'heure.
Ah ben non, le vin vient de plusieurs régions de France. C'est, on va dire que la plupart des produits de notre boutique vient du coin.
Voilà. D'accord. Et mais pourquoi la pisciculture sur Fontaine-sous-Jouy?
La pisciculture Fontaine-sous-Jouy existe depuis très très longtemps. Les anciens propriétaires voulaient vendre parce que pour diverses raisons. C'était un peu la pisciculture était un peu en déclin et du coup on a voulu nous on, en fait on est sur les 3, on est 2 anciens qui travaillaient déjà dans une pisciculture avant depuis de nombreuses années et on a eu cette opportunité de reprendre celle-ci. Elle est jolie, elle est sympa, l'eau est donc on a la chance d'avoir une eau aussi de très haute qualité. Puisqu'on a on a 3 sources qui alimentent nos bassins, qui vient donc de la rivière qui s'appelle le Roset. Et ces 3 sources sont qu'à 500 mètres au-dessus de chez nous. Et donc, ce qui permet d'avoir une eau cristalline tout le temps, même quand il pleut très fort, etc. On n'a pas d'eau boueuse ou quoi, etc. L'eau reste claire et pour nos poissons, c'est idéal. Et c'est une eau en plus qui reste très fraîche, bien oxygénée, même en plein été, elle dépasse pas 16 degrés. Du coup, ce qui est vraiment très bien pour nos poissons, pour nos truites.
Est-ce que vous avez des contrôles de la qualité de l'eau?
Alors on n'a pas de contrôle particulier de la qualité de l'eau, on a des contrôles internes où on peut voir le taux d'oxygène, le taux de nitrate, le taux de nitrite, et de toute façon notre meilleur contrôle c'est la truite. La truite, si elle n'a pas suffisamment d'oxygène, si elle se sent pas bien, elle ne survit pas. Donc c'est vraiment on va dire que notre meilleure façon de voir si notre eau est bonne, c'est notre poisson.
D'accord. Et vous avez eu le prix lors du salon de l'agriculture. Et votre prix, c'était basé sur quoi? Sur la qualité du poisson ou sur la qualité de l'environnement?
Non, alors notre prix, on a présenté notre truite fumée qu'on transforme chez nous au Salon de l'Agriculture à Paris. Donc c'est la fait partie de notre transformation. Donc c'est de la truite qui est élevée chez nous, transformée directement chez nous, fumée chez nous, tranchée chez nous. Et donc du coup, on s'est dit bon ben on va essayer de présenter notre produit, voir ce que ça donne. Et on a eu la grande stupéfaction, ou pas stupéfaction, mais la grande joie plutôt de recevoir un prix, non seulement pas la médaille de bronze, mais on a eu la médaille d'or. Donc ce qui est vraiment génial pour nous, surtout quand on vient d'ouvrir depuis un an, ça prouve que notre travail est fait correctement, et que notre fumaison est faite correctement, et que le produit est de bonne qualité.
Et bien voilà pour la première partie du reportage donc sur la pisciculture. Maintenant nous allons écouter Gertrude.
Ah, la protection de l'eau. Je ne l'apprends à personne en disant que l'eau est une source précieuse et très essentielle à notre existence. Tous les êtres vivants en dépendent. Sans eau, la Terre ne serait pas ce qu'elle est. Malheureusement, et d'après l'Organisation mondiale de la santé, environ 2 milliards de personnes n'ont pas accès à l'eau potable. Permettez-moi de faire une petite révision de SVT, de science vie de la Terre, en vous disant que tous les êtres vivants sont constitués de cellules remplies d'eau. Notre corps est composé de 70% d'eau, que cette dernière joue un rôle fondamental en permettant à notre sang de circuler. Donc, chez les végétaux, la teneur en eau est entre 80 et 90 de leur poids. C'est un besoin essentiel pour la photosynthèse et les glucides pour pouvoir se développer. Mais c'est pourquoi il est très important de considérer l'eau comme un bien commun. Chacun d'entre nous a la possibilité d'agir pour la préserver. Mais sans vigilance de chacun, petit ou grand, la déshydratation, la sécheresse ou les maladies liées aux bactéries peuvent frapper. Mais prenons conscience de l'importance de maintenir la qualité de notre eau. Une eau saine, exemptée de plastique, de bactéries, de substances chimiques nuisibles à notre santé. L'homme ne doit pas être égoïste. Il doit sans cesse penser que son existence dépend de la qualité de vie des autres êtres vivants. Mais peu importe où nous vivons, nous pouvons tous apporter notre contribution. En évitant de jeter les déchets dans la nature, je vous donne une petite solution. Pourquoi ne pas se munir d'un petit sac pour ramasser nos déchets lors de nos promenades? Mais en protégeant les milieux aquatiques, les écosystèmes si précieux. Nous collectons alors l'eau de pluie pour l'arrosage de nos jardins et de nos plantes. Plantons des cultures qui demandent moins d'eau pour alléger notre empreinte. Privilégions les douches plus que les bains. Souvenez-vous que chaque geste compte. Mais pour le monde occidental, parce qu'il y a des pays où ils n'ont pas de machines, utilisons nos lave-vaisselles à Modéco. Mais peu importe notre rang social, par notre mode de consommation, dans nos comportements, nous sommes tous responsables de la mauvaise qualité d'eau. Ce combat pour l'eau n'appartient pas à une seule génération. C'est un effort collectif, une responsabilité que nous partageons et qui doit être transmise aux plus jeunes de leur enfance. Alors, ensemble, prenons soin de notre eau, car elle est la source de toute vie. Merci.
C'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Oh, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Même l'eau de mer au cœur de l'hiver me surprend. Même l'eau chlorée, l'eau décolorée me fait plonger. Même l'eau de mer au cœur de l'hiver me détend. Même l'eau chlorée, l'eau décolorée me fait nager. Oh, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Oh, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Même l'eau de pluie, l'eau des matins gris me fait sourire. Même l'eau qui boue et l'eau des égouts, même la boue. Même l'eau de pluie, l'eau des matins gris me fait frémir. Même l'eau qui boue et l'eau des égouts sont à mon goût. Oh, c'est l'eau, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Oh, c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Même l'eau qui saoule, l'eau de vie qui coule et qui endort. Même l'eau qui fond, l'eau dans les glaçons, l'eau du bouillon. Même l'eau qui saoule, l'eau de vie qui coule et l'eau qui dort. Même l'eau qui fond, l'eau dans les glaçons, l'eau qui rencontre. Oh, c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Oh, c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Même l'eau du corps, l'eau qui s'évapore, l'eau de l'aisselle. Même l'eau brouillée, l'eau que j'en ai marre d'être mouillée. Même l'eau du corps, l'eau qui s'évapore, l'eau de vaisselle. Même l'eau qui pue, l'auquel on a marre d'être bouillu. Oh, c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Oh, c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Même l'eau des larmes comme un vacarme dans les yeux. Même l'eau des pleurs arrose les fleurs de mes aïeux. Et l'eau de ta bouche quand je la touche avec la mienne. C'est l'eau qui me va, celle que je bois comme un poème.
Vous venez d'entendre Jeanne Chéral avec un titre on ne peut plus simple, l'eau. Eh bien, moi.
Vous êtes bien sur les ondes de Principe Actif. Nous écoutons, vous écoutez, de vous à nous, on vous dit presque tout.
Eh bien, je le redis, moi. Je vous emmène dans des endroits parfois bien cachés, dans la nature où jaillit un point d'eau. Ces endroits font souvent l'objet d'un culte et sont parfois entourés de petits édifices en pierre, d'oratoires ou même de petites chapelles. Ce sont des sources dites miraculeuses, des fontaines à dévotion, connues et fréquentées par de nombreux pèlerins. Ce culte de l'eau était déjà solidement installé dans la Gaule, comme en témoignent des ex-voto gallo-romains près de la source de Roya. D'abord condamnée par l'Église, évidemment. Entre la fin de l'Antiquité et Charlemagne, ces bonnes fontaines sont ensuite christianisées au Moyen-Âge sous l'égide d'un saint dit guérisseur par l'intégration des rites catholiques. La répartition géographique des fontaines à dévotion, il y en a quand même plus de 2000 sources visitées, donne la part belle évidemment à la Bretagne. Mais elles sont également réparties dans les Landes, le Berry, le Quercy ou la Savoie. Et surtout sur Normandie. Mais que va-t-on chercher auprès de ces sources? Les ethnologues les ont classées en trois grandes catégories, mais ce sont les usagers qui en parlent le mieux. Il y a tout d'abord les fontaines à action préventive, c'est-à-dire qu'on y vient demander aux saints qui patronnent ces fontaines des grâces en tout genre, pour soi mais aussi pour les animaux et le bétail. C'est le jour du pardon, en procession aux fontaines, encore en usage aujourd'hui, que tout se joue. La fontaine est nettoyée, décorée, on vient prendre un verre de cette eau ou la recueillir dans un flacon, ou même on y trempe son vêtement. Il y a aussi les fontaines à action thérapeutique. Elles sont très souvent visitées, même très éloignées de chez soi. Ces eaux thérapeutiques concernent des maladies comme des maux de ventre, mais beaucoup des maladies dermatologiques, eczéma, zona, furoncle. Des problèmes de vue même, d'ouïe, rhumatisme, épilepsie, goutte, problèmes digestifs. Même le bétail a le droit aussi à ses sources thérapeutiques. Et puis, il y a les fontaines divinatoires, où l'homme vient se risquer à interroger son avenir. Connaître le sexe d'un enfant à venir, trouver une solution à un problème de couple, espérer une issue favorable à un procès, ou même interroger sur la guérison, éventuelle ou pas d'ailleurs, d'un malade. Toutes ces demandes aux bonnes fontaines, qu'elles soient curatives, divinatoires ou préventives, sont accompagnées de rituels très précis et parfois bien compliqués. Par exemple, si vous trempez un vêtement dans l'eau miraculeuse d'une source, que vous en frottiez la partie malade de votre corps, vous irez ensuite accrocher ce tissu aux branches d'un arbre près de la fontaine. Et cet arbre ainsi garni devient un arbre à loques. De même, aller à la fontaine au lever au coucher du soleil a une grande importance, comme tourner 3 fois ou 7 fois autour de la fontaine suivant les lieux. L'origine des fontaines
relèvent souvent de légendes, surtout en Bretagne. Elles furent découvertes, soi-disant, sous le sabot d'un cheval ou sous le bâton d'un évêque ou d'un bouton de rose fleuri en hiver. Alors, laissez-moi vous raconter l'origine d'une source qui n'a rien d'une légende, non loin d'Évreux, à Incarville exactement. Nous sommes en 1930. Un vent de modernisme souffle sur la commune d'Incarville en la personne de l'abbé Delamarre, curé et radiesthésiste à 16 heures, et qui se mit en tête de trouver du pétrole sur sa commune d'Incarville. Aidés d'un de ses confrères, passionné aussi de radiesthésie, l'abbé Bouly, ils arrivent à convaincre le conseiller général du canton, M. Georges de Boisgelin, qui achète le fameux terrain où dormirait ce fameux trésor d'or noir. Et c'est parti, voilà l'installation d'un dérit de 20 mètres de hauteur et le forage commence. Arrivé à une profondeur de 300 mètres, un bruit sourd, suivi d'un grondement. Et soudain, un immense geyser, mais hélas, pas noir, blanc, de l'eau. Déçu mais opiniâtre, l'abbé décide de continuer le forage. On arrive à 904 mètres, et ce fut un énorme geyser qui jaillit, toujours de couleur blanche. L'opération devenait de plus en plus coûteuse, alors M. de Boisgelin décida d'arrêter les travaux. Une source de plus, me direz-vous. Oui. Sauf que cette eau est chaude, oui, à 28 degrés, de jour comme de nuit, été comme hiver. Et sa composition en ammoniac et en gaz carbonique lui confère des propriétés dermatologiques comme l'eczéma. Le terrain fut racheté en 1978 par la commune d'Incarville aux héritiers de M. Boisgelin, qui voulait en faire un établissement thermal, mais donc trop cher, il a fallu arrêter. C'est donc devenu un lieu de curiosité. La source est condamnée, mais il y a une buse qui permet quand même d'écouler le flux continu vers la rivière toute proche. Donc, allez-y, c'est pas très loin. Même en hiver, vous déchaussez et vous trempez vos pieds dans de l'eau à 28 degrés. Et maintenant, je vais passer la parole à Michel. Michel, ta chronique, y a-t-il des sources miraculeuses ?
Ah ben, mesdames, messieurs, en tant que délégué de la Ligue anti-alcoolique, je vous parlerai de l'eau. L'eau ferrugineuse, comme son nom l'indique, contient du fer. Du fer, oui. Et le dire, c'est bien, mais le fer, ben, c'est mieux. Alors l'alcool, non. Mais l'eau ferrugineuse, oui. Et je suis fier de faire à cheval une conférence contre l'alcool. Alors, l'alcool, non, mais l'eau ferrugineuse, oui. Non, dans l'eau ferrugineuse, c'est parce que le fer a repassé? Non. Pas le fer à repasser, l'eau. C'est parce que l'eau a passé et repassé sur le fer et le fer a dissous. Et le fer a dissous, c'est pas cher. Alors, pourquoi boire cet alcool qui vous ruine la santé et le portefeuille? Alors, l'alcool, non, mais l'eau ferrugineuse, oui. D'ailleurs, l'alcool brûle les tissus. Et vous le sentez quand vous en buvez. Buvez, ça pique. Alors que le verre solitaire... pas le verre solitaire. Bon, le fer est salutaire, voilà. D'ailleurs, ne dit pas-t-on une santé de fer? Un homme de fer? Un chemin de fer? Un mammifère? Alors, suivez-moi. Et comme disait mon grand-père, il faut vivre, mais il ne faut pas s'en faire. L'alcool, non, mais l'eau ferrugineuse, oui. Après l'eau ferrugineuse, pas la guerre du feu, mais la guerre de l'eau par Michel.
Alors, on imagine souvent les guerres comme un conflit lointain pour des
du pétrole, par exemple, ou des territoires. Mais aujourd'hui, une question se pose. Et si l'eau venait à manquer, est-ce qu'elle ne deviendrait pas, elle, une source majeure de conflits ? L'eau, c'est vrai, elle est partout. Et pourtant, l'eau douce, accessible, est extrêmement limitée. Elle représente 2,5% du volume total de l'eau sur Terre. Et en plus, elle se raréfie. Aujourd'hui, le dérèglement climatique bouleverse complètement le cycle de l'eau. Sécheresse plus longue, pluie plus violente mais moins régulière, nappes phréatiques qui peinent à se recharger. En France, la sécheresse de 2022 a marqué un tournant. 93 départements ont été soumis à des restrictions d'eau au plus fort de la crise. Et en 2023, la situation restait tendue. 62% des nappes phréatiques étaient encore sous la normale de saison en été. Le GIEC alerte depuis des années. Ces phénomènes vont s'intensifier. Et derrière ces chiffres, une réalité simple, moins d'eau disponible pour plus de besoins. Alors forcément, quand une ressource vitale se raréfie, elle devient stratégique. Prenons le Nil. Ce fleuve fait vivre des millions de personnes, notamment en Égypte. Mais en amont, l'Éthiopie a construit un immense barrage. Résultat, des tensions diplomatiques, des inquiétudes, chacun redoute de manquer. Même chose autour du Tigre de l'Euphrate, où plusieurs pays dépendent des mêmes eaux. Ici, l'eau n'est plus seulement une ressource, c'est une affaire de survie et donc de pouvoir. La question devient donc politique. Qui contrôle l'eau contrôle une partie de l'avenir. On pourrait croire que ces conflits sont lointains, presque abstraits. Mais en réalité, ils sont déjà là, chez nous. Les débats autour des réserves d'eau agricole, les fameuses méga-bassines, ont donné lieu à des affrontements, notamment à Sainte-Soline. Derrière ces tensions, une question profondément politique. Qui a le droit d'utiliser l'eau et pourquoi faire ? Agriculture, industrie, usage domestique, l'eau devient un arbitrage. Et ces arbitrages, forcément, créent des tensions. Alors, et nous, en Normandie ? Eh bien, nous sommes aussi touchés. Ces dernières années, des épisodes de sécheresse ont surpris par leur intensité. Des restrictions d'eau ont été mises en place en plein été, parfois plus tôt que prévu. Des sols trop secs, des rivières fragilisées. Une situation qu'on n'associait pas forcément à une région réputée humide. Et c'est peut-être ça le plus frappant. Le changement est déjà visible, même là où on n'attendait pas. Et ici à Évreux, on n'est pas épargné non plus. En 2022-2023, le secteur d'Évreux affichait encore un déficit de pluie d'environ moins 24% par rapport au normal. Résultat, dès mars 2023, la préfecture de l'Eure a pris des arrêtés de restriction de l'eau. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Interdiction d'arroser à certaines heures, limitation du lavage des voitures, réduction de l'irrigation agricole. Autre chiffre parlant, sur l'agglomération, plus de 7 millions de mètres cubes d'eau sont prélevés chaque année. Donc la pression sur la ressource est bien réelle. Un petit exemple concret. Prenons le cas d'un agriculteur de l'Eure. L'été 2022, avec la sécheresse, il a dû faire un choix. Irriguer ou perdre une partie de sa récolte. Mais les restrictions sont tombées. Impossible d'arroser comme avant. Résultat, des rendements en baisse, des cultures parfois abandonnées et une adaptation forcée. Aujourd'hui, certains agriculteurs du secteur expliquent qu'ils changent déjà leurs pratiques. Ils choisissent des cultures moins gourmandes en eau. Par exemple, ils ne cultivent plus le maïs. Ils se résolvent à une irrigation plus ciblée et ils renoncent même parfois à certaines productions. Ce n'est pas une guerre, mais c'est déjà une transformation profonde. Heureusement, des réponses émergent. On peut réutiliser les eaux usées. Dans plusieurs villes, elles servent déjà à arroser les espaces verts et à alimenter les terrains de sport. La récupération de l'eau de pluie est de plus en plus encouragée, y compris chez les particuliers. L'agriculture s'adapte, il y a de nouvelles cultures, on pratique l'irrigation goutte à goutte. L'urbanisme aussi devient plus intelligent. On végétalise les cours, par exemple, des établissements scolaires plutôt que de laisser du bitume. Et on limite le gaspillage. Autrement dit, on peut agir et on commence déjà à le faire. Parce que l'eau, c'est la vie et la vie est née dans l'eau. Et quand une ressource vitale devient rare, elle nous oblige à faire des choix. Des choix politiques, des choix collectifs, mais aussi des choix individuels. Alors, une question pour vous se pose, auditeur. Seriez-vous prêt concrètement à changer vos habitudes pour préserver l'eau ?
Écoutons. On allait au bord de la mer avec mon père, ma sœur, ma mère. On regardait les autres gens comme ils dépensaient leur argent. Nous, il fallait faire attention quand on avait payé le prix d'une location. Il ne nous restait pas grand-chose. Alors on regardait les bateaux. On suçait des glaces à l'eau, les palaces, les restaurants. On ne faisait que passer devant et on regardait les bateaux. Le matin, on se réveillait tôt sur la plage pendant des heures. On prenait de belles couleurs. On allait au bord de la mer avec mon père, ma sœur, ma mère. Et quand les vagues étaient tranquilles, on passait la journée aux îles. Sauf quand on pouvait déjà plus. Alors on regardait les bateaux, on suçait des glaces à l'eau, on avait le cœur un peu gros, mais c'était quand même beau.
Nous venons d'écouter Michel Jonas qui chantait « Les vacances au bord de la mer ». Et nous allons suivre maintenant la deuxième partie du reportage sur la pisciculture.
Alors justement, le fait d'avoir obtenu ce prix et de cette médaille d'or, ça doit vous donner une exigence encore plus importante.
En fait, ce qu'il faut, c'est perdurer sur le temps. Donc c'est toujours trouver de rester constant sur notre production, sur notre façon de faire, pour que notre produit soit toujours le même et qu'il soit toujours autant apprécié de nos clients.
Alors nous, c'est vrai, dans notre émission, c'est sur l'eau. Est-ce que vous n'êtes pas inquiet, par exemple, par rapport à l'environnement qui entoure votre exploitation? Notamment, est-ce qu'il y a beaucoup de cultures? Est-ce qu'il y a de l'usage d'engrais?
Alors, on a, vous posiez la question tout à l'heure pour l'environnement de l'eau. On a quelqu'un qui est venu il y a pas longtemps, qui vient nous voir pour justement parce qu'on avait quelques algues justement dans le petit étang là-bas, voir un peu si tout se passe bien, parce que oui, selon les agriculteurs, on sait bien que malheureusement, par rapport à ce qu'on utilise à mettre dans les champs, ça peut arriver. Maintenant, ça fait des dizaines d'années que la pisciculture elle est là. On n'y a jamais eu de soucis, et donc on n'est pas inquiet.
Et moi j'ai envie, on va arriver sur la fin de notre interview, l'évolution de la pisciculture dans les prochaines années, vers quoi vous voulez vous diriger?
Alors, l'évolution de la pisciculture, il y a qu'on arrive à perdurer sur le temps, hein, parce que l'État nous aide pas beaucoup, hein, sur toutes les charges, les normes, etc. qui existent aujourd'hui. Être artisan, c'est très compliqué. Donc perdurer sur le temps sur ça, donc continuer à voir que notre boutique fonctionne bien, parce qu'aujourd'hui c'est la transformation qui va nous faire perdurer plus que la pêche, parce que sur la pêche, ça devient de plus en plus compliqué d'en vivre. Et on a on a le projet d'ici 2 ans de créer une serre aquaponique. Donc je sais pas ce que vous savez, mais c'est de faire pousser des végétaux grâce aux nutriments des poissons qui y a dans l'eau. Et donc ça se créera juste en face de chez nous là, dans le pré en face, où on pourra vendre un peu des produits, enfin des fruits et des légumes. Et puis développer la deuxième développement, c'est vraiment développer la base restauration qu'on a au bord de l'étang. Mais voilà, donc ça va se faire petit à petit.
Voilà. Où est-ce qu'on peut trouver vos produits? Dans quel magasin?
Alors, pour l'instant, on a quelques revendeurs, mais pas beaucoup. Donc, il y a évidemment chez nous, on a le Plessis-Grouan, on a la Heunière, juste avant, on a le Potager d'Anne. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Est-ce que vous faites, par exemple, les expositions comme la Fête Normande, les choses comme ça? Les marchés de Noël?
Alors, on fait quelques marchés de Noël, on fait quelques salons, on fait des salons à Passy, à Évreux, entre autres avec le Lions Club ou le Rotary Club. On fait 2 ou 3 marchés de Noël.
Enfin, disons que tout est tourné autour de la nature. Hein. Vous êtes vraiment, vous n'avez pas de culture bio. En fin de compte, vous n'êtes pas dans le bio.
Pas dans le bio.
Et le mot de la fin, qu'est-ce que vous pourriez nous dire en mot de la fin? Il y a une chose qu'on a oublié de vous poser comme question, on peut le dire en mot de la fin, c'est quelles ont été vos motivations pour prendre l'ambition?
Non, c'est quelles ont été mes motivations pour reprendre la pisciculture? C'est en fait déjà connaître avec qui on s'est associé, donc on se connaît tous les trois. On a chacun nos avantages et nos inconvénients,
vos compétences.
Voilà, nos compétences personnelles. Pardon, j'ai eu du mal. La motivation, c'est que c'est aussi pas avoir de patron au-dessus. On est là tous les trois. On sait ce qu'on a à faire. Et du coup, on avance ensemble du mieux possible. C'est faire découvrir aux gens un modèle qui fonctionne, de proposer des poissons qui sont de bonne qualité, dans une eau hyper claire, de très bonne qualité. On a encore la possibilité aujourd'hui de le faire, d'avoir une idée de comment dirais-je de plaisir, de loisir, tout en gagnant sa vie, et c'est ça le plus important, je pense.
Je crois qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui ont quand même appris que vous avez eu le prix au salon d'agriculture. Est-ce que vous voulez le donner à peu près les heures d'ouverture, comment ça?
Alors, on est ouvert, donc la pisciculture donc de Fontaine-sous-Juy, on s'appelle les aquaculteurs du Rosay. Donc, vous pouvez nous suivre soit sur Facebook, soit sur, on a un site également internet. On est ouvert du mercredi au dimanche. Sur la pêche, on est ouvert de 7h30 à 18h. Et sur la pisciculture elle-même, on est ouvert de 9h à midi et de 14h à 18h. Donc, du mercredi au dimanche.
Voilà, d'accord.
En tout cas, on vous remercie beaucoup. Nous, on est dans, il fait beau, on est dans un cadre magnifique. En tout cas, vous avez la chance de travailler dans ce coin-là.
Voilà.
Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup.
Eh bien, je renouvelle aussi nos remerciements, comme l'a fait Gertrude, donc à Bruno de la pisciculture du Rosay à Fontaine-sous-Jouy. Alors moi, maintenant, je vais vous parler des eaux minérales, du scandale des eaux minérales. L'appellation eau minérale naturelle doit nous garantir des eaux non chimiquement traitées. Ces eaux nous sont proposées par de grandes marques, par des eaux régionales ou de distributeurs. Parmi toutes les marques présentes sur le marché, une a fait particulièrement parler d'elle, Perrier. Perrier aujourd'hui dans la tourmente pour avoir utilisé des filtres désinfectants suite à des contaminations bactériennes. Cette pratique, en théorie interdite, a été validée par arrêté préfectoral. On peut affirmer que les grandes marques qui vendent des eaux dites minérales naturelles ne le sont pas. Une jeune entreprise savoyarde, l'eau Bonneval, a d'ailleurs dénoncé ces pratiques et conteste les autorisations données par l'État. Des investigations de Radio France ont mis en lumière la multiplication des contaminations au sein de l'usine Perrier depuis le retrait progressif des filtres interdits utilisés depuis des années par Nestlé. Après de nouvelles contaminations, c'est environ 4 millions de bouteilles qui sont bloquées par les autorités sanitaires. Pourtant, les autorités de santé ont remis un rapport invitant le préfet à renouveler à Nestlé l'autorisation d'exploiter en eau minérale naturelle. UFC Que Choisir a saisi le tribunal de Nanterre pour demander une interdiction de commercialisation et la cessation des tromperies. Le groupe Nestlé est de nouveau convoqué devant la justice pour les forages de Contrex et Épars. Des déchets ont été illégalement abandonnés aux abords des sites d'embouteillage vosgiens. Ces dépôts sauvages ont contaminé aux microplastiques les terres et les nappes souterraines utilisées pour les eaux minérales. L'enquête judiciaire n'a pas établi de lien entre la pollution des nappes et la présence des microplastiques dans les bouteilles commercialisées. Un rapport d'enquête de l'OFB, Office français de la biodiversité, prouve que ces décharges ont contaminé les sols, mais aussi les nappes phréatiques dans lesquelles sont puisées les eaux utilisées pour produire les marques Contrex et Épars. Au parquet de Nancy, le ministère public accuse la société Nestlé d'avoir en connaissance de cause, géré sans agrément ses décharges. Par contre, la contamination des eaux, ils n'en ont pas parlé, de leur eau d'exploitation. On peut résumer en affirmant, Nestlé a traité illégalement ses eaux minérales, Nestlé a menti et caché ses pratiques, ces pratiques entraînent un risque pour la santé. Nestlé n'est pas la seule société concernée par ces pollutions. Des PFAS, les polluants dits éternels, ont été détectés dans 3 sources d'eau en bouteille dans la Loire et en Ardèche, qui ont été fermées par leurs exploitants. Les 4 eaux minérales recommandées sur leur site gouvernemental sont Montroucou, Volvic, Cristalline, Vadviller. C'est vrai que ça fait peur, parce que toutes les autres eaux sont en circulation. En conclusion, aucune bouteille d'eau, que ce soit de source ou minérale, même de grandes marques, ne peut garantir une absence totale de microplastiques. Les études montrent que la contamination peut provenir du plastique, du bouchon, des conditions de stockage, du parcours industriel, mais aussi de la pollution de l'environnement. Donc moi, c'était un petit peu pas mon billet d'humeur, mais voilà, je vais laisser la place à Michel, qui j'espère a retrouvé son élocution normale, pour nous faire son billet d'humeur.
Mon billet d'humeur. Très, très, très mauvaise, mon humeur. Hein. Quand j'ai regardé le JT de 20h, le vendredi 3 avril sur la 2, vous le constatiez tous, les carburants augmentent de 30 à 50 centimes. Et là, j'explique le télétrottoir. Les gens interviewés, on nous vole, l'État se sucre, les pétroliers font du beurre, ça je savais pas. Il faut nous donner des sous. Eh bien, si vous comptez 20% de hausse sur un budget mensuel de 120 euros, 30 euros, 150 euros donc, ce n'est pas rien, mais c'est pas la fin du monde quand même. Et vous pensez, en écoutant, en les écoutant, bien sûr, ça y est, la France ne vit plus. Logique. Et pour étayer leurs propos, les journalistes repassent un reportage. Et vous avez, bien sûr, les gens qui rouspètent. Mais où sont-ils? Eh bien, ils sont à la boule en week-end et déclarent, je cite, « Le budget essence nous a coûté cher. On va réduire les frais de restaurant. » Eh bien, moi, je leur réponds, « Allez à la Turballe à 20 km, c'est moins cher. Vous trouverez du poisson frais et il y a même du vrai sel à côté. Et en cherchant bien, le parking est gratuit. » Et à la télé, ils sont comme nous. Tous les 3 minutes, ils traitent un nouveau sujet. Et là, dans la foulée, qu'est-ce que j'entends? Céline Dion et son retour à la scène. Et j'apprends 750 000 billets mis en prévente, de 100 à 400 euros. Et puis, on s'aperçoit que plusieurs millions de gens ont tenté d'en avoir, sans certitude, puisqu'il va y avoir un tirage au sort. Et là, plus question de vie chère et de fin de mois difficile. Chercher l'erreur, surtout quand on a vu la tête et la voiture des premiers plaignants, sûr que mathématiquement, ils font sûrement partie aussi pour tenter leur chance chez Céline Dion. Je ne juge pas, je constate. Voilà qui explique ma mauvaise humeur et qu'aussi, en plus, j'ai pris un an de plus, mais il n'y a pas que moi, ça me rassure, la totale. Et pour le mois prochain, je crois que ça ne va pas s'améliorer. N'attendez pas mieux. Quand je vois qu'à Évreux, les pires plaignants pour l'essence font un plein tous les 3 mois. J'ai les noms. Arrête, Michel, ils écoutent. Et ils vont même écouter MC et Secure Thermal.
Merci, Michel. Tu nous fais bien rire. L'eau est également utilisée pour ses vertus thérapeutiques. Du bien-être qui utilise l'eau. Mais pas de la même manière. Cure Thermal ou thalassothérapie? Comment choisir? Vous avez peut-être hésité entre les deux. Et pourtant, des objectifs bien différents. Direction la Terre, des cures thermales. On n'y vient pas seulement pour se relaxer, mais surtout se soigner, traiter une maladie. Les eaux utilisées sont naturellement riches en minéraux et oligo-éléments, soufre, calcium, magnésium, puisées directement à la source souterraine et ont des bienfaits très précis. Rhumatismes, troubles respiratoires, affections de la peau, fatigue chronique. Chaque eau a une composition unique, avec des effets différents suivant la station. La Bourboule, le Mont d'Or sont spécialisés dans les allergies respiratoires. Aix-les-Bains, Dax, pour ne citer que pour les rhumatismes. Entre le Cantal et l'Aubrac, Chaudaigre dispose d'eau les plus chaudes d'Europe. Pas moins de 32 sources y jaillissent, la plus célèbre, la source du Par, et ses 82 degrés. Une quarantaine de maisons sont chauffées ainsi, et le lavoir et l'église d'hiver. Ces eaux sont riches en sodium et en soufre, recommandées pour les douleurs articulaires et musculaires. Et comme nous parlait tout à l'heure Anne-Marie, insolite, à Incarville, je veux vous le rappeler, une source d'eau jaillit à 28 degrés, connue pour soigner l'eczéma et les maladies de peau, riche en soufre, ammoniac et gaz carbonique. Il est important de choisir une station dont les eaux correspondent le mieux à votre pathologie et bien se préparer à cette période de soins intensifs pour regagner une meilleure qualité de vie. Des villes thermales accueillent chaque année des milliers de curistes. Tout est encadré médicalement, prescrit par votre médecin pour une durée de 18 jours, généralement remboursée, bain dans l'eau thermale, douche à jet, enveloppement de boue, kiné en piscine. L'eau est un élément indispensable en soins et une gestion constante est assurée de la part des soignants afin de garantir la sécurité et le bien-être du patient. À l'inverse, cap sur le littoral avec la thalassothérapie. L'eau de mer, les algues, l'air marin, tout est pensé pour se détendre, le corps et l'esprit. Des destinations qui font penser aux vacances, séjour plaisir de quelques jours ou une semaine, selon votre budget bien sûr,
sans prescription et non remboursée. On se ressource, se relasse, retrouve de l'énergie, mais ça reste temporaire, moins puissant qu'une tire thermale dont on ressent les bienfaits pendant plusieurs mois. Finalement, ce n'est pas vraiment un duel. Le soin d'un côté, le bien-être de l'autre. À vous de choisir votre besoin. Douleur, problème de santé, fatigue chronique, cure thermale. Envie de se relaxer, décompresser, se faire plaisir, thalasso. Le principal dans tout ça, prenons soin de nous. Merci.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain, yeah, 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 yeah. I'm happy again. I'm singing and dancing in the singing in the rain.
Il était heureux, Gene Kelly, Singing in the Rain, pour les francophones chantant sous la pluie. Et comme on a du soleil, alors Sylvie, bonne nouvelle?
Oui Michel. Alors aujourd'hui, je vous invite à découvrir un extrait des bonnes nouvelles concernant l'eau dans le monde. Bien que les défis de l'eau soient nombreux à l'échelle internationale, il existe des avancées significatives. Les substances PFAS dont parlait Florence, polluants éternels, sont devenues la préoccupation majeure pour l'environnement. Et de nombreuses initiatives prometteuses sont mises en place pour limiter leur utilisation, réduire leur présence et protéger la population. De nombreux pays et organisations internationales augmentent leur budget et mettent en œuvre des politiques visant à améliorer l'accès à l'eau potable. L'objectif de développement durable ODD, 6 des Nations Unies, qui vise à assurer l'accès à tous à l'eau et à l'assainissement, motive de nombreux efforts à l'échelle mondiale. Maintenant, je vous cite quelques initiatives parmi tant d'autres, comme l'agriculture durable, l'agroécologie et l'agriculture régénératrice, qui gagnent en popularité, hein, la protection des écosystèmes, la réutilisation et le recyclage de l'eau. Mais on trouve aussi la récupération des eaux de pluie et la gestion des eaux grises qui gagne aussi en popularité dans les zones urbaines. Et puis, de nombreux pays partagent bassins fluviaux et aquifères suite à des accords frontaliers. De plus, la coopération internationale et gouvernance grâce à des campagnes sur la sensibilisation et les changements de comportement joue aussi, ainsi que la consommation responsable. Bien que les défis persistent, ces bonnes nouvelles témoignent des progrès réalisés et de l'engagement croissant envers la gestion durable de l'eau. Pour en savoir plus, visitez le site internet aqua-technique.fr.
Eh bien, merci Sylvie. Alors maintenant, nous allons, avec toute notre équipe, débattre, faire un débat sur notre sujet d'aujourd'hui, l'eau. Alors moi, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous pensez de la gestion de l'eau dans votre ville, dans notre ville ? Alors, est-ce que vous avez des idées ou est-ce, comment vous trouvez ?
Vaste question. Hein. Enfin, sur Évreux, moi, perso, je la trouve très chère. Après, il y a peut-être aussi
Des causes.
Mmh. Mais je trouve que quand même l'eau est chère et la note n'est pas terrible quand même.
Hein. Voilà. Ouais. Et justement, par rapport à la qualité de l'eau, est-ce que vous êtes satisfait ou pas? Ou est-ce que vous êtes allé voir déjà les résultats de la qualité de l'eau?
Si, on est classé en C, donc avec des pesticides dans l'eau. Donc on ne peut pas dire qu'on est content de l'eau quand même.
Voilà, on n'est pas content de l'eau.
Alors on préfère payer cher, mais avec une qualité d'eau irréprochable.
Voilà. Et donc, est-ce que vous buvez sans crainte de l'eau du robinet ou est-ce que vous achetez des eaux en bouteille? Par exemple, Sylvie, toi, ton...
Moi, personnellement, je la filtre, l'eau. Tu n'achètes pas d'eau en bouteille, déjà d'une, pour le transport. Surtout aussi pour les plastiques, pour économiser le plastique. Hein. Mais je la filtre. Comme ça, j'ai mes petites bouteilles, je mets mon eau filtrée régulièrement.
Voilà. D'accord. J'économise. Et quelles sont vos pratiques à peu près comme ça?
Moi aussi, chez moi, donc, je consomme pour la cuisine, j'utilise l'eau du robinet, mais filtrée. C'est-à-dire que j'achète du charbon pour filtrer un petit peu l'eau. Donc, voilà. Et puis sinon, bon, c'est vrai, comme tu as dit tout à l'heure, Florence, j'achète du Moluku parce que je trouve que c'est une eau qui est très agréable à boire. Et puis pour l'instant, je dirais, j'ai un petit peu confiance. Mais... on ne sait jamais. Mais en même temps, quand j'ouvre la bouteille, je ne la referme plus. Je préfère la mettre dans un broc comme ça. Je n'ai pas obligé d'ouvrir et fermer parce que sinon, on met beaucoup de plastique dans la bouteille.
Voilà, c'est ça ce que je fais aussi. La contamination, effectivement, moi j'ai appris ça avec cette émission, c'est que le fait d'ouvrir et de fermer le bouchon, on met des microplastiques dans l'eau. Voilà, effectivement, c'est...
Je
ne
savais pas.
Tu vois, non, Sylvie non plus, tu ne savais pas.
Depuis que les bouchons sont solidaires, quand ils étaient désolidarisés, c'était mieux.
Mais
maintenant, c'est le bouchon solidaire qui fait qu'il faut appuyer sur le goulot. Et effectivement, ça fait des pifasses, quoi, comme tu disais.
Voilà. Ouais. Donc, et Michel, alors, tu as des choses à dire, Michel?
Oui, parce que moi, j'ai été élevé à l'eau du robinet. J'ai toujours pris de l'eau du robinet toute ma vie. J'en prends toujours. Je ne me suis jamais posé de questions et je suis toujours là.
Ah, voilà. Donc, alors, vaut-il mieux boire de l'eau du robinet, de l'eau en bouteille? Parce que, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a quelques villages où on ne peut plus consommer l'eau du robinet.
Il y a eu, alors... Il y a le village, je crois que c'est une commune pas très loin d'Évreux qui s'appelle l'Abi, où les femmes enceintes et les jeunes enfants, ils sont une interdiction. On considère de ne pas consommer l'eau du robinet.
Voilà. Ouais, moi, j'ai vu des reportages l'autre jour et je n'ai pas retenu le nom, mais en fin de compte, les familles payent l'eau, elles payent l'assainissement, elles payent tout, mais elles ne peuvent pas consommer leur eau parce qu'elles ont trop de biphase dedans. Et lorsqu'on fait des prises de sang aux enfants, ils ont des taux de biphase dans le sang qui sont, qui explosent 100 fois la norme. Ce qui fait que ça devient une vraie psychose, même pour se laver les dents. Ils ne peuvent même pas faire à manger avec. Donc les mamans ou les mères de famille, elles sont obligées d'aller faire des réserves d'eau minérale, tout en sachant que dans ces eaux minérales, il y a du plastique.
Oui.
Donc c'est un petit peu le chat qui se mord la queue.
Donc voilà.
Et alors vous, est-ce que vous avez des habitudes justement que vous avez mis en place pour économiser l'eau dans votre usage quotidien? Qu'est-ce qui peut témoigner?
Moi, déjà, quand je lave mes légumes, je garde l'eau pour arroser mes plantes.
Voilà.
Hein, au jardin, tout ça. Je fais attention de ne pas couler l'eau. Par exemple, à se laver les dents, je ne coule pas l'eau, je mets ça dans un
verre.
Toutes les choses simples qu'on peut... on a appris, nos parents nous ont appris, faire attention et économiser tout ça. Mmh. Je pense qu'il faut le transmettre à ses enfants et je le transmets maintenant à mes petits-enfants. Hein. Oui. Faire attention à tout ça. Hein. Est-ce qu'il y en a... par exemple, aller aux toilettes aussi, bah, si, c'est peut-être, je ne sais pas si c'est une question, bah, si tu es deux, bah, tu vas aux toilettes, bon, bah, je tire la chasse d'eau après toi, bah, on tire la chasse d'eau qu'une seule fois si on a le petit besoin. Voilà, c'est des choses tout simples de tous les jours. Hein.
Parce qu'une chasse d'eau, c'est 6 litres d'eau, une chasse d'eau. Donc c'est vrai que.
Mais c'est pareil, donc dans la douche, on mieux vaut mettre un petit sablier qui ne fait que 5 minutes. Donc c'est-à-dire on doit se laver en 5 minutes. Mm-hmm. En même temps, il ne faut pas faire couler l'eau tout le temps, quand on prend sa douche. Donc je pense qu'il faut. Chacun. En fait, le problème dans tout ça, c'est que chacun doit être responsable.
Oui, alors Michel, il ne veut pas témoigner parce que lui, il ne se lave plus.
Il a peur de nous.
Je m'inscris en faux, une fois tous les 15 jours. Par contre, on est des fois à 6 litres d'eau, et puis les data centers, combien de tonnes d'eau qu'il faut. Hein, c'est un vaste sujet,
c'est donc, ça,
mais il faut quand même en parler.
Pour l'IA, par exemple, qui est en train de faire une illustration incroyable, bah, c'est de l'eau hein, quand même. Ouais. Hein.
Ouais. C'est mais malgré tout, c'est quand même l'affaire de tous. C'est quand même l'affaire de tous, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Ah, Sylvie, tu t'es pas trop exprimée, toi.
Non, mais c'est vrai, c'est l'affaire de tous. Bien sûr, on fait tous les gestes, comme disait MC, de faire attention à ne pas faire couler l'eau pour rien, parce que c'est vrai que ça va vite, hein, un litre d'eau, c'est quelques secondes, quoi.
Moi, j'aimerais bien quand même vous poser une question qui me taraude un petit peu dans ma tête. Est-ce qu'on doit préparer notre disparition imminente? Pourquoi je dis ça comme ça? C'est pas parce que je suis pessimiste, c'est parce qu'on entend parler des PFAS dans de l'eau, on entend parler du cadmium dans tout ça, on sait plus quoi manger, on sait plus quoi boire. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire en fait en soi? Est-ce que je me prépare à ce que demain je suis plus là? Qu'est-ce qui se passe? Même la vie est fait que.
Effectivement, on va terminer sur cette question. Est-ce qu'on a une espérance de vie très longue? Voilà.
Apparemment, on vit de plus en plus vieux. Désolé.
Voilà. Écoutez, notre émission se touche à sa fin. Donc aujourd'hui, nous n'avons évoqué que quelques aspects de cet élément essentiel, l'eau. L'eau est essentielle à la vie. Elle est fragilisée par les activités et les décisions prises par les humains. Préserver l'eau est l'affaire de tous, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, et pas seulement des gouvernements. C'est aussi un engagement individuel, réduire le gaspillage, protéger le milieu naturel. La prochaine fois que vous ouvrirez un robinet, pensez-y, chaque goutte compte. Avant de nous quitter, un grand merci à Damien et JC qui nous accompagnent pour la réalisation de nos émissions sur Principe Actif 102.4 à Évreux et 95.9 sur Verneuil, Breteuil et Conches. Merci de nous avoir écoutés et au mois prochain avec un nouveau thème.